Sélection de lettres de la princesse Palatine, tirée du livre Correspondance complète de Madame, duchesse d'Orléans, née princesse Palatine, mère du régent. Traduction par Monsieur Brunet. Versailles, 26 mars 1696. J'étais trop âgée quand je vins en France pour changer de caractère. La base était jetée. Il n'y a rien là de surprenant. Mais je serais inexcusable si j'étais fausse et si je n'aimais pas les personnes pour lesquelles je dois avoir de l'attachement. Vous avez raison de croire que j'écris comme je parle. Je suis trop franche pour écrire autrement que je ne pense. La bonne duchesse de Guise, cousine du roi et de monsieur, est morte ici il y a 5 jours. J'en ai été fort affligée. C'était une digne et pieuse femme. Nous dînions chaque jour ensemble. Il n'y avait qu'une antichambre entre ma chambre et son cabinet. Elle a conservé toute sa tête jusqu'au dernier moment. Elle est morte tranquille et sans regret. Versailles, 22 janvier 1697. Il est déplorable que les prêtres fassent que les chrétiens soient tellement divisés entre eux. Les trois religions chrétiennes n'en formeraient qu'une seule si l'on suivait mon avis. On ne s'informerait pas de ce que croient les gens, mais s'ils vivent conformément à l'Évangile, et on prêcherait contre ceux qui mènent une mauvaise conduite. On laisserait les chrétiens se marier entre eux et aller à l'église où ils voudraient sans y trouver à redire. Il y aurait alors plus d'harmonie qu'il n'y en a à présent. Je fais tant de cas du roi Guillaume que j'aimerais mieux l'avoir pour gendre que l'empereur d'Allemagne. Je puis dire avec vérité de ma fille qu'elle n'a aucune pensée de coquetterie ni de galanterie. À cet égard, elle ne me donne aucun souci et je pense n'avoir rien à craindre. Elle n'est pas belle, mais elle a une jolie taille et bonne mine et de bons sentiments. Je suis persuadée qu'elle restera vieille fille, car, selon toute apparence, votre roi épousera la princesse de Danemark. Je me figure que l'empereur prendra la seconde princesse de Savoie et le duc de Lorraine la fille de l'empereur. Il ne restera donc plus rien pour la mienne. Mars 1697. Je ne sais si vous vous souvenez combien j'étais gaie durant ma jeunesse. Cela m'a bien passé. Je viens d'être plus de 6 semaines sans rire une seule fois. La comédie est encore ce qui m'est diverti le mieux. Saint-Cloud, 4 septembre 1697. Il est bien vrai que le célibat est le meilleur état et que le meilleur des hommes ne vaut pas le diable. L'amour dans le mariage n'est plus du tout à la mode et passerait pour ridicule. Les catholiques ici voient dans leur catéchisme que le mariage est un sacrement. Mais au fait, ils vivent avec leurs femmes comme si ce n'en était pas un. Et ce qui est pire, rien n'est plus approuvé que de voir les hommes avoir des galanteries et délaisser leurs femmes. Afin de ne pas trop m'étendre sur ce sujet, je vais vous parler de mon loup. Saint-Cloud, 17 juin 1698. Je n'ai pas besoin de beaucoup de consolation à l'égard de la mort. Je ne désire pas la mort et je ne la redoute point. On n'a pas besoin du catéchisme d'Heidelberg pour apprendre à ne pas trop s'attacher à ce monde, surtout en ce pays où tout est si plein de fausseté, d'envie et de méchanceté, et où les vices les plus inouïs s'étalent sans retenue. Mais désirer la mort est une chose tout à fait opposée à la nature. Au milieu de cette grande cour, je me suis retirée comme dans une solitude. et il y a fort peu de gens avec lesquels j'ai de fréquents rapports. Je suis de longues journées entières, toute seule dans mon cabinet, où je m'occupe à lire et à écrire. Si quelques personnes viennent me rendre visite, je ne les vois qu'un moment. Je parle de la pluie et du beau temps, ou bien des nouvelles du jour, et je me réfugie ensuite dans ma retraite. 4 fois par semaine, j'ai mes jours de courrier. Le lundi en Savoie, le mercredi à Modène, le jeudi et le dimanche, j'écris de très longues lettres à ma tante à Hanovre. De 6 à 8 heures, je me promène en voiture avec monsieur et avec nos dames. 3 fois par semaine, je vais à Paris et tous les jours, j'écris à mes amis qui y demeurent. Je chasse 1 ou 2 fois par semaine. C'est ainsi que je passe mon temps. Marly, 4 juillet 1698. Ceux qui ne s'imaginent pas la situation exacte des choses ici croient que le roi et la cour sont ce qu'ils étaient autrefois, mais tout est changé d'une façon bien fâcheuse. Si quelqu'un avait quitté la cour à l'époque de la mort de la reine et qu'il y revint maintenant, il penserait se trouver transporté dans un tout autre monde. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais on ne peut les confier au papier car toutes les lettres sont ouvertes. Ma tante a coutume de dire que chacun, ici-bas, est le démon, chargé d'en tourmenter un autre. Et c'est bien vrai. Nous savons bien que tout est le résultat de la volonté de Dieu et n'arrive que comme il l'a fixé de toute éternité. Mais le Tout-Puissant, ne nous ayant pas consultés sur ce qu'il voulait faire, nous sommes dans l'ignorance sur les causes de ce que nous voyons arriver. Je vous ai déjà dit mon opinion à l'égard des prêtres qui défendent la comédie. Je n'en parlerai pas davantage. Je dirais seulement que s'ils y voyaient un peu plus loin que leur nez, ils comprendraient que l'argent que le peuple dépense pour aller à la comédie n'est pas mal employé. D'abord, les comédiens sont de pauvres diables qui gagnent ainsi leur vie. Ensuite, la comédie inspire la joie produit la santé donne la force produit de bons travaux. La comédie est donc à encourager plutôt qu'à défendre. Port-Royal, 22 avril 1698. Lundi dernier, une de mes bonnes amies est morte subitement à Versailles, sur sa chaise, d'une attaque d'apoplexie. Elle se nommait la princesse d'Espinois. C'était une dame du plus grand mérite, avec beaucoup de politesse et de jugement, et ayant la meilleure conduite du monde. Elle ne pensait qu'à servir ses amis et ses parents, et était de la meilleure compagnie. En somme, c'est une très grande perte, et elle m'afflige jusqu'au fond du cœur. Il n'importe guère que l'on soit beau et une belle figure change bientôt, mais une bonne conscience reste toujours bonne. Il faut que vous ne vous souveniez guère de moi si vous ne me rangez pas au nombre des laides. Je l'ai toujours été, et je le suis devenu encore plus des suites de la petite vérole. Ma taille est monstrueuse de grosseur, je suis aussi carré qu'un cube, ma peau est d'un rouge tacheté de jaune, mes cheveux deviennent tout gris. Mon nez a été tout bariolé par la petite vérole, ainsi que mes 2 joues. J'ai la bouche grande, les dents gâtées, et voilà le portrait de mon joli visage. Saint-Cloud, 31 juillet 1699. Rien n'est plus rare en France que la foi chrétienne. Il n'y a plus de vice ici dont on ait honte. Et si le roi voulait punir tous ceux qui se rendent coupables des plus grands vices, il ne verrait plus autour de lui ni noble, ni prince, ni serviteur. Il n'y aurait même aucune maison de France qui ne fût en deuil. Marly, 21 janvier 1700. Ce n'est pas une fable que le roi du Maroc ait fait demander en mariage la princesse de Conti, mais le roi a nettement repoussé cette proposition. Cette princesse était extrêmement belle avant d'avoir eu la petite vérole, mais sa maladie l'a bien changée. Elle conserve encore une taille parfaite et une tournure charmante. Elle danse admirablement. Je n'ai vu d'elle aucun portrait gravé qui lui ressemblât. Je puis bien comprendre qu'on aille à Rome, comme mon cousin le landgrave de Cassel, pour voir des antiquités. Mais je ne puis m'imaginer qu'on y aille pour assister à toutes les cérémonies des prêtres, car rien n'est plus ennuyeux. Peut-être aussi que beaucoup de gens y vont à cause des 30 000 dames galantes qui y sont, à ce qu'on dit. Mais ceux qui sont curieux de pareilles marchandises n'ont qu'à venir en France. Ils en trouveront en abondance. Celui qui veut se repentir de ses péchés n'a pas besoin de faire le voyage de Rome. Se repentir sincèrement, sans sortir de chez soi, est tout aussi profitable. Ici, on ne s'occupe guère ni de Rome ni du pape. On est persuadé qu'on peut aller au ciel sans lui. Port-Royal, 15 mai 1701. Toutes les lettres qui entrent en France ou qui en sortent sont ouvertes. Je le sais fort bien, mais je ne m'en inquiète pas et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Versailles, 15 juillet 1701. Ma santé est toujours fort affaiblie. Voici la première fois depuis 8 jours que la fièvre m'a quittée. J'ai eu, depuis le malheur qui m'a frappée, 18 accès de fièvre, et je croyais que la volonté de Dieu était de terminer ma triste vie. Mais il n'en a pas été ainsi. Il me reste encore une très grande lassitude et beaucoup de faiblesse dans les jambes, ce que j'attribue à l'impression que m'a fait éprouver la mort de monsieur. Mes jambes sont restées à trembler durant 24 heures, comme lorsqu'on a un très violent accès de fièvre. On ne peut rien voir de plus effroyable que ce dont j'ai été témoin. À 9 heures du soir, monsieur sort de ma chambre en parfaite santé, gai et riant. À 10h30, on m'appelle et je le trouve sans connaissance. Il me reconnut encore et prononça quelques mots avec beaucoup de peine. Je restai toute la nuit auprès de lui et le lendemain matin, à 6h, lorsqu'il n'y eut plus aucun espoir, on m'emporta sans connaissance. Je vous suis bien obligée de toute la part que vous prenez à mon malheur, qui est affreux, et je vous remercie de tout mon cœur. Je vous prie aussi de faire savoir à la reine douairière de Danemark combien je suis touchée de ce que Sa Majesté a bien voulu se souvenir de moi dans son infortune. Novembre 1701. Il n'y a pas longtemps qu'on m'a communiqué une des chansons faites sur la guerre d'Italie. Elle m'a fait rire, car la façon dont les Français parlent l'allemand y est retracée d'une façon fort plaisante. Vous auriez tort de supposer que j'ai cessé de lire la Bible. Je lis tous les matins 3 chapitres. Vous ne devez pas imaginer que les catholiques français soient aussi sots que les catholiques allemands. C'est une toute autre chose. Et on dirait que c'est une religion entièrement différente. Lis la Sainte Écriture qui veut. Personne ici ne regarde le pape comme infaillible. Et lorsqu'il excommunia Lavardin à Rome, on ne fit qu'en rire. On ne songe pas au pèlerinage. Il y a autant de différences ici avec les catholiques de l'Allemagne qu'avec ceux d'Italie et d'Espagne. Versailles, 10 décembre 1701. Mon contrat de mariage a été dressé aussi misérablement que si j'étais la fille d'un bourgeois. Je ne puis comprendre que l'électeur me l'ait fait signer. Ma maison est si grande que bien que le roi me donne 250 000 francs de pension, il me manque encore une somme égale à celle qu'il me donne pour pouvoir m'entretenir selon mon rang. Tout ici est extrêmement cher et hors de prix. Versailles, 22 avril 1702. L'électeur de Hanovre est un égoïste sournois et dissimulé. Je m'en suis assurée depuis longtemps, car, quelques marques d'amitié que je lui ai témoignées, il ne m'a jamais donné aucun signe de confiance, et il a à peine voulu me parler. J'ai été obligée de lui arracher, pour ainsi dire, les paroles une à une, ce qui est une chose fort désagréable. Il est tout à fait dépourvu de bon naturel. La reine d'Angleterre s'est montrée véritablement chrétienne et généreuse à l'occasion de la mort du roi Guillaume. Beaucoup d'Anglais voulaient, lorsque cette nouvelle est arrivée, témoigner leur joie. La reine a fait défendre de donner aucun signe d'allégresse, et elle parle de ce prince sans animosité. Je l'admire fort, et il est sûr qu'elle n'a pas mérité son malheur. Je suis persuadée que ma tante est maintenant plus heureuse qu'elle ne le serait si elle était reine d'Angleterre. Car les Anglais sont des gens faux et bizarres. Marly, 29 avril 1702. La duchesse de Brunswick a plus de motifs que personne de s'affliger du malheur survenu à sa fille, car si, dès sa première jeunesse, elle ne l'avait pas élevée dans la galanterie et la coquetterie, cette catastrophe ne serait pas arrivée. Cette duchesse était d'une naissance fort obscure, et c'eût été pour elle un honneur que d'épouser mon premier valet de chambre. Elle peut donc regarder comme un bien grand bonheur pour elle d'avoir trouvé un duc de Brunswick qui a voulu en faire sa femme. Je n'ai point de peine à croire que le prince d'Anhalt ait voulu faire passer pour princesse la fille de son apothicaire, mais qu'il y ait des princes qui aient été assez sots pour la reconnaître comme telle et pour accorder les honneurs de ce rang à une pareille créature, voilà qui est révoltant. Marly, 3 juillet 1702. J'ai appris hier, par une lettre de ma tante l'électrice de Brunswick, la mort de notre pauvre Charles Maurice. J'en suis sincèrement affligée et je vous plains du plus profond de mon âme. Versailles. 22 juillet 1702. Si Charles Maurice n'avait pas si fort aimé le vin, il eût été un parfait philosophe. Mais il a bien payé cher son défaut, car je suis sûre que l'ivrognerie a abrégé sa vie. Il ne pouvait rester sans boire, et il s'était brûlé tout le corps. Si la cour de France était comme autrefois, on pourrait y apprendre l'art de se conduire dans la vie. Mais, excepté le roi et monsieur, personne ne sait plus ce que c'est que la politesse. Les jeunes gens ne songent qu'à d'horribles débauches. Je ne conseillerais à personne d'envoyer ici ses enfants, car, au lieu d'apprendre quelque chose de bien, ils ne recevraient que des leçons d'inconduite. Vous avez donc bien raison de blâmer les Allemands qui envoient leurs enfants en France. Je voudrais que nous fussions l'une et l'autre des hommes, afin d'aller à la guerre. Mais c'est un souhait complètement inutile. Marly, 27 juillet 1702. Ma fille et son mari sont encore si enfants que je suis toute tracassée lorsque je la sais enceinte. Dieu veuille qu'elle nous donne cette fois-ci un garçon. Fontainebleau, 29 septembre 1702. J'étais sortie pour me promener en voiture dans la forêt, comme je fais tous les jours. Mais à peine étions-nous partis, que le cocher nous a versé tout net. Une de mes dames a eu à l'épaule et au dos des coupures faites par une vitre cassée. Il y avait 7 chiens dans le carrosse. Aucun n'a éprouvé le moindre accident. Je crains que la guerre ne fasse perdre à nos paysans de l'Allemagne tout ce qu'ils avaient pu ramasser depuis 15 ans. Je vous ai dit qu'il me semblait que quelques petits diables étaient toujours à l'œuvre pour m'empêcher de vous écrire. Ils ne se reposent pas, car depuis que j'ai commencé cette lettre, le roi est venu me rendre visite, ensuite la duchesse de Bourgogne, après la princesse de Conti et une foule d'autres dames. C'est une procession. Et il faut donc, contre mon gré, que je termine ici en vous assurant de toute mon amitié.